Bienvenue sur Quoi neuf d'auteur, le podcast qui donne la parole aux autrices et auteurs de JLE, éditeurs reconnus en médecine, sciences et techniques. Ensemble, nous allons découvrir leur parcours, leur spécialité et surtout les messages qu'ils souhaitent partager à travers leurs ouvrages. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Gompel, gynécologue médicale, hospitalière et universitaire. Elle est également présidente du Collège national des enseignants de gynécologie médicale et est l'autrice de l'ouvrage « Gynécologie médicale, une histoire de lutte » paru chez Médecine Sciences, une marque d'édition de JLE. Merci Madame Gompel pour votre participation à cet épisode de Quoi de neuf d'auteur, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Avant de découvrir plus en détail votre livre, est-ce que vous pourriez vous présenter vous ainsi que votre parcours et surtout les raisons qui vous ont amené à vous spécialiser dans le domaine de la gynécologie médicale ?
Alors je suis maintenant présidente honoraire du collège après avoir été présidente. Donc je suis Anne Gompel, j'ai fait une spécialité d'abord d'endocrinologie puis de gynécologie médicale. Vous savez que la gynécologie médicale n'existe qu'en France. Et enfin j'ai passé un assistanat chez le professeur Mauvais-Jarvis à Necker, qui était le service de référence à l'époque de gynécologie endocrinienne et médecine de la reproduction pendant une dizaine d'années. J'ai fait une thèse de science, la recherche sur les cellules mammaires, l'effet des hormones sur les cellules mammaires normales et cancéreuses. Ensuite, j'ai été nommée professeure à l'Hôtel-Dieu dans le service du professeur Poitou, qui était un service de chirurgie gynécologique et qui m'avait fait venir pour développer la gynécologie médicale et la recherche. Alors la recherche, il n'y avait aucun moyen, pas de labo, etc. Donc il a fallu pas mal se débrouiller pour arriver à monter une activité de recherche. C'était un peu compliqué. Et le professeur Poitou est décédé. Donc son service de chirurgie gynécologique et où il y avait donc une activité de gynécologie médicale que j'avais développée. Enfin, l'intérim a été assuré par le professeur Madelena qui vient de décéder, un chirurgien gynécologue aussi. Et le SROS, c'est-à-dire le plan du nombre de lits en Île-de-France par les instances, souhaitait diminuer les lits gynéco-obstétriques. Donc on en a entre guillemets profité pour supprimer toute l'activité chirurgicale de ce service. Et moi, je me suis battue pour garder l'activité de gynécologie médicale. Soutenue par la comité médicale de l'Hôtel Dieu, j'ai bénéficié donc d'une unité fonctionnelle de gynécologie médicale à partir, je crois que c'est 2002 ou 2003, où là, j'ai pu développer une activité de consultation et d'hospitalisation de jour en commun avec l'hôpital de jour de cardiovasculaire. Et on a pu développer une activité transversale dans cet hôpital. Et je crois qu'on a fait vraiment, pour les patientes, c'était formidable. On en s'entendait bien et on avait un peu une plateforme de radiologie, échographie, mammographie, etc. De femmes radiologues extrêmement compétentes et d'une grande gentillesse et d'une grande disponibilité. Voilà. Après, on a déménagé à Port-Royal, puisqu'ils ont réuni, enfin la PHP a réuni toutes les activités de gynécologie et d'obstétrique du CHU. On a été rattaché au pôle donc, de gynéco-obstétrique dans le service du professeur Chaperon, qui est un spécialiste de l'endométriose, un très bon chirurgien, et qui nous a vraiment fait venir et accueillis en nous donnant les moyens de travailler. Donc ça a été le parcours hospitalier sur le plan universitaire. Donc j'ai été nommée professeure en 90 à l'Hôtel Dieu. J'ai fait une thèse de sciences avant, j'ai continué à avoir des activités de recherche dans l'unité INSERM pendant toutes ces années. Et je travaillais je faisais 2 jours par semaine de consultation, 2 jours par semaine de labo, et puis le 5e jour de la semaine, c'était les staffs, les courriers, etc. Et puis le week-end, les publications, les articles, machin. Bon. Donc voilà mon parcours. Actuellement, je suis professeure émérite, je suis à la retraite de l'hôpital et émérite de l'université, c'est-à-dire que je suis à la retraite, mais je continue à avoir des activités. Je continue à enseigner en visio, puisque notre enseignement de spécialité est national et en visio. J'ai monté aussi, il y a plus de 20 ans, un diplôme d'universitaire de ménopause. La personne qui m'a succédé, le professeur Pulbureau, a pris maintenant la direction, et moi je continue à enseigner dans ce DU, qui est un DU qui est devenu de plus en plus populaire, surtout que maintenant c'est en visio, puisque cette année on avait plus de 110 inscrits. Alors, au sein de cette carrière, il y a eu un événement important qui a été la création du comité de défense de la gynécologie médicale par Dominique Malvy, fin 1997, surtout en 1998, qui s'est rendu compte, un, que la spécialité avait été supprimée, puisque notre spécialité avait été supprimée au moment de la réforme de l'internat. Jusque-là, il y avait deux possibilités pour être spécialiste, les CES, certificats d'études spéciales, sans concours, avec des examens mais pas de concours, et la voie de l'internat, qui était beaucoup plus restreinte en termes de nombre, admis sur concours. En 82, réforme de l'internat qui unifie la formation en une seule filière avec la création des DES, diplômes d'études spécialisées. Et on supprime la gynécologie médicale. Et donc, à partir de 98, il y a eu un grand mouvement de... Alors, Dominique Malvy était gynéco-médicale à Albi. C'était une passionnariat, une femme extraordinaire qui avait monté la maison des femmes à Albi, qui faisait de la gynécologie médicale en secteur 1, qui faisait elle-même ses IVG et qui s'est rendu compte que il n'y avait plus de gynéco-médicaux formés déjà depuis un moment. Et puis, il y avait une réforme du médecin référent qui se mettait en place, c'est-à-dire que les femmes ne pourraient plus consulter les gynécos directement sans passer par le généraliste. Donc, elle a fait un questionnaire auprès de sa patientèle pour savoir ce qu'elle ferait. Le questionnaire est d'ailleurs dans mon livre. Et donc, elle a posé un certain nombre de questions à ces femmes et elle s'est rendue compte que les femmes, un, n'avaient pas envie d'aller voir le généraliste qui s'occupait de leur mari, de leurs enfants, etc., pour parler de leurs problèmes de gynécologie qui sont des problèmes un peu plus intimes. Et deux, donc, elles ne consulteraient plus, entre guillemets, qu'en cas de problème, c'est-à-dire trop tard. Puisque une partie de la population à cette époque-là de femmes bénéficiait d'une consultation annuelle qui prenait en charge tous les risques des femmes, les dépistages des cancers, les problèmes cardiovasculaires, etc. Voilà. Donc du coup, elle a lancé ce mouvement avec l'aide de femmes et d'hommes, et c'est devenu un mouvement national. Il y a eu une grande bagarre et je me suis impliquée dans cette bagarre en tant qu'universitaire, avec le professeur Cuten aussi, qui a aussi contribué beaucoup à la restauration de la formation. Et on a fini par gagner en 2003, puisqu'il y a eu un décret qui a créé un DES, un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale. Voilà pour ma carrière. Alors maintenant, je vis au Portugal et je m'occupe d'associations de femmes, de ménopause, d'oncologie. Je fais des topos. Et je continue à enseigner, etc.
Parfait. Un parcours très, très riche, donc.
Occupé.
Est-ce qu'il y a une figure ou un événement particulier qui a inspiré votre engagement dans ce domaine médical ?
Tout simplement, ma mère était une grande gynécologue médicale, très investie dans son travail et connue dans le milieu. Elle a formé beaucoup de gens. Elle n'était pas professeure, elle était mi-temps à l'hôpital, mi-temps en cabinet chez elle, enfin privé. Et elle a formé des générations de médecins et elle m'a transmis sa passion. J'ai hésité à faire d'autres choses. J'ai au départ fait une spécialisation d'endocrinologie. Et puis finalement, je me suis transformée quand même en gynécologue médicale. Et je n'ai pas regretté parce que c'est un métier totalement passionnant. Et c'est vraiment la meilleure des spécialités, très transversale. Et au cours de mon internat, je suis vieille, donc j'avais un internat qui à l'époque était beaucoup plus large en termes de stage que de la seule spécialité. J'avais fait pas mal de médecine interne et du coup, je me suis beaucoup occupée des patientes ayant des pathologies chroniques, des maladies rares, etc., pour leurs problèmes hormonaux, gynécologiques, etc. Donc, j'avais ce qu'on appelle un recrutement qui était très riche et très transversal et ça a été un plaisir de travailler dans cette spécialité. Jamais regretté.
Vous avez parlé de gynécologie médicale et de gynécologie obstétrique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différences entre les deux ? Et est-ce que vous pourriez également nous préciser en quoi consiste votre métier, celui de gynécologue médical ?
La spécialité de gynéco-obstétrique appartient aux spécialités chirurgicales depuis les années 80. La spécialité de gynéco-médicale, quand elle a été recréée, a été placée dans les spécialités médicales. Donc déjà, ça explique la différence d'exercice. Donc les obstétriciens s'occupent de la grossesse et des accouchements. Et les gynéco-obstétriciens sont chirurgiens et opèrent. Après, ils ne sont pas du tout formés à la partie médicale de la spécialité ou de l'exercice, parce qu'ils n'ont pas le temps dans leur stage de formation d'internat de passer dans les services d'endocrinologie, etc. Nos internes, donc dans notre DES restauré, ont un cursus. Alors, les gynéco-obstétriciens, c'est 6 ans de formation maintenant, depuis les réformes récentes. La gynéco-médicale, c'est 4 ans. Donc, il y a 2 à 3 semestres dans les services de gynéco-obstétrique quand même pour apprendre en quoi consiste la chirurgie gynécologique. Également dans les services d'obstétrique, font des gardes comme les internes de gynéco-obs. Et puis le reste, c'est de l'endocrinologie, de l'oncologie, la radiologie éventuellement, enfin éventuellement de la médecine interne, la rhumatologie. Donc ils font des stages beaucoup plus médicaux. Donc les métiers sont différents effectivement, dans la mesure où la gynécologie médicale s'occupe de tous les problèmes hormonaux de la femme depuis la puberté, même chez les femmes âgées. Les problèmes hormonaux, les problèmes gynécologiques sans faire de chirurgie, et quand ça nécessite une chirurgie, on envoie aux collègues chirurgiens. Le suivi, le dépistage des cancers, avant qu'il y ait des dépistages organisés en France, puisque le dépistage national du cancer du sein, c'est 2014, et le dépistage du cancer du col, ça fait 3 ans. C'est Gycomet qui faisait les frottis essentiellement et qui prescrivait les mammographies, et on avait des indices de santé des femmes qui étaient les meilleurs. Et donc, c'est parce que c'est une prise en charge médicale des maladies qui ne nécessitent pas de chirurgie. Une maladie bénigne du sein, par exemple, qu'on traite médicalement, ce n'est pas la peine de les opérer. Mais beaucoup de maladies utérines qui peuvent avoir un traitement médical sans avoir besoin de chirurgien. Et puis, donc on s'occupe de ça, des femmes qui ont des problèmes d'hirsutisme, donc de poils, de troubles du cycle, de ménopause, de contraception difficile, d'infertilité, de sexualité, plus ou moins. Et puis de problèmes post-pubertaires et des problèmes associés de saignements, par exemple associés aux maladies chroniques, au traitement, et puis le diagnostic des saignements, des métrorragies, des ménorragies, etc. Voilà. Un vaste programme, et c'est pour ça que c'est bien. Et alors, dans la ménopause, en plus, c'est une prise en charge très holistique de la femme, les risques cardiovasculaires, l'ostéoporose. Les risques oncologiques, la prévention, l'éducation à la santé, la nutrition, l'exercice physique, enfin voilà, c'est des consultations longues, mais qui sont vraiment de prévention et d'éducation à la santé.
Nous allons maintenant passer à la présentation de votre ouvrage Gynécologie médicale, une histoire de lutte, où vous faites un véritable panorama historique de toutes les évolutions et changements qu'a pu traverser votre discipline depuis sa création au début du XXe siècle. Est-ce que vous pourriez nous en apprendre davantage sur votre ouvrage?
Il y a plusieurs parties. Donc en fait, je remonte à l'Antiquité. La première partie, c'est vraiment avant la création, l'invention du mot gynécologie qui est apparu en France en 1938, d'après ce que j'ai pu trouver. Donc on parlait des maladies des femmes avant la gynécologie et la vision des femmes était quand même très, très particulière. C'est-à-dire qu'on parlait de tota mulier in utero, toute la femme dans son utérus. Donc les anciens, c'est-à-dire dès l'Égypte, Hippocrate, Platon, l'Antiquité grecque, pensaient que l'utérus était un animal mobile dans la cavité utérine. Il modifiait les pulsions et les désirs et donc le comportement féminin. Et on s'est rendu compte que l'utérus n'était pas un animal et qu'il y avait des ligaments qui le liaient et il n'était pas si mobile que ça. Mais cette vision du lien entre le comportement des femmes et les maladies des utérus s'est prolongée jusqu'au 19e siècle. C'est incroyable. Et ces idées galiénistes qui reprennent le fait que le comportement des femmes est influencé par leur utérus a perduré jusqu'au 19e siècle. C'est complètement dingue. La gynécologie apparaît au 19e siècle. Alors pourquoi une gynécologie médicale en France? Eh bien, il y a à mon avis deux raisons pour lesquelles elle a perduré. La première raison, c'est qu'il y a eu une grande école de chirurgie gynécologique fondée par Samuel Pozzi dans le dernier tiers du 19e siècle. Il faut dire qu'à cette époque-là, la mairie de Paris avait décidé de fonder un corps d'obstétriciens dans les hôpitaux. Parce que jusque-là, c'était des chirurgiens qui étaient chefs de service d'obstétrique. Ils n'étaient pas formés aux accouchements du tout, ils n'étaient pas formés à l'obstétrique, mais ils nommaient leurs élèves comme chefs de service et c'est les internes qui faisaient les accouchements, etc., sans avoir été formés. Et le Conseil de Paris a décidé de créer un corpus d'obstétriciens et donc ils ont obtenu la séparation de l'obstétrique et de la chirurgie gynécologique. Donc la chirurgie gynécologique est restée séparée de l'obstétrique jusqu'en 1941. Les chirurgiens, ils étaient très contents d'avoir des médecins pour leur envoyer des malades à opérer. Et ils ont très bien travaillé au 19e siècle et puis au 20e siècle avec des médecins qui faisaient de la gynécologie médicale. Et j'ai découvert en faisant les recherches pour écrire mon livre, parce que tout ça n'était absolument pas connu. Donc pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est parce qu'on m'a demandé de faire un topo sur l'histoire de la gynéco-médicale et que je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de données. Donc j'ai fait ces recherches, j'ai passé beaucoup de temps, mais c'était super intéressant, aux Archives nationales, à la BNF, à l'Académie de médecine, à la Bibliothèque d'histoire de la santé. Et j'ai trouvé des documents qui m'ont permis de trouver, de combler les trous, et en particulier que cet exercice existait dès la fin du 19e siècle, au début du 20e. Donc il y a plusieurs traités dans cette époque-là, fin du 19e, début du 20e, qui sont des traités soit de médico-chirurgicaux par un chirurgien et un médecin, soit des traités de gynécologie médicale. Alors tout ça, je le raconte dans mon livre, c'est la deuxième partie de mon livre, les traités de médecine. Et la gynécomède a perduré en France, complémentaire de la gynéco-chirurgicale, avec une parfaite entente. Et dans tous ces traités, on explique à quel point il y a une complémentarité entre les deux formations, les deux exercices, etc. Et il y a eu des personnalités emblématiques, alors que j'ai qualifiées dans mon livre ça c'est la troisième partie, de militantes et de scientifiques. Donc, je raconte, j'ai fait un chapitre consacré à chacune de ces personnalités qui ont permis de donner une visibilité à la fois politique, sociologique et scientifique à la spécialité. Donc, Jean d'Alsace, c'est le premier dont je parle, qui était un médecin absolument incroyable, qui était médecin à l'hôpital Saint-Antoine, avec une formation de gynécologue et de médecin généraliste. Enfin, plus généraliste que gynécologue, et qui en 1929 part aux États-Unis rencontrer Margaret Sanger, qui a initié le contrôle des naissances et le planning familial américain. Donc il va voir comment ça se passe là-bas. Il revient en France, mais il y avait une loi de 1920 qui interdisait la promotion de la contraception et l'avortement. Tout ça, je le raconte dans mon livre en expliquant la base à partir du néo-malthusianisme et de l'eugénisme, de la bagarre pour la contraception, etc. C'est des histoires, je trouve, très, 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 très intéressantes. Enfin, moi, ça m'a passionné d'apprendre dans le détail tout ça et de retrouver toutes ces traces. Ensuite, il y a Marie-Andrée Lagroua-Vaillallet, qui est la gynécomède qui a créé le planning familial français, dont je raconte tous les détails de l'histoire, donc je vais peut-être accélérer un peu là. Et puis après, les deux scientifiques qui ont contribué à la spécialité, donc Albert Netter, qui a un service de gynéco-endocrino en 1949 et qui va, dans son service, développer toutes les thématiques modernes de la gynécologie endocrinienne et un enseignement de gynécologie endocrinienne dès les années 50, y compris la contraception qu'il confie à Ken Nathan alors que c'était illégal encore. Il avait un sacré courage, donc la ménopause, la sénologie. Il a travaillé en plus avec un chirurgien extrêmement brillant, René Musset, et ils ont vraiment fait avancer tous les deux la connaissance de la gynécologie organique. Et Netter a été un pionnier et un visionnaire et très courageux et avec plein d'idées. Et donc, je détaille tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et il a eu en plus la chance de bénéficier de l'aide à cette époque-là de Max Gell, qui était chirurgien gynéco. Max Gell était un biochimiste de grand talent et qui a développé tous les dosages des hormones stéroïdes. Donc ils ont travaillé aussi ensemble et ça a permis vraiment de faire progresser le diagnostic des maladies dépendantes des hormones pour les femmes. Après Netter, c'est Mauvais Jarvis, Pierre Mauvais Jarvis, qui a repris son service, qui était plus scientifique que lui. Et donc, Mauvais Jarvis avait à la fois une approche clinique, enfin un service de clinique et un labo de recherche dans lequel j'ai fait ma thèse de science. Moi, j'étais son élève pendant une dizaine d'années et qui a développé le traitement à ménopause à la française, qui est maintenant reconnu comme étant le meilleur traitement du monde. Bon. Et puis, il a travaillé beaucoup sur les androgènes. Donc, ça, c'est la troisième partie de mon livre. Après, je parle un petit peu de moi. À la fin, pardon, avant, il y a le combat de la restauration de la gynécologie médicale, puisque cette spécialité avait été supprimée, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, il y a eu une grande bagarre avec le comité de défense de la gynécologie médicale, dont je détaille tout le processus, ça serait un peu long d'en parler là, avec 95 comités régionaux. Enfin, ça a été vraiment très original, trois manifestations, plusieurs conférences de presse. Et donc, on a abouti à restaurer la spécialité en 2003, non sans mal et avec beaucoup de bagarres. Mais voilà. Donc, cette spécialité existe depuis 2003, elle se développe. Au départ, on n'avait qu'une vingtaine d'internes. Là, on arrive autour de 90 internes par an dans la spécialité. On a nommé des professeurs, on a nommé des PUPH, on a nommé des MCUPH, on a nommé plus d'une centaine de PH dans les hôpitaux régionaux ou les hôpitaux de CHU. Donc ça se développe. Il reste encore un point d'achoppement qui, sur le plan politique, peut être dangereux, c'est le CNP. On n'a pas de CNP de gynécologie médicale. Alors, qu'est-ce que c'est que le CNP? C'est le Comité national professionnel. C'est un organisme que les instances ministères de la Santé a créé pour avoir un seul interlocuteur. Donc, il y a un CNP par spécialité. Et ça réunit les enseignants, les gens du privé, les syndicats, les sociétés savantes de la spécialité. Lorsque les CNP ont été créés, en gros, et pour faire raccourci, le CNP de GO, de gynéco-obstétrique, a fait une OPA sur le CNP de GM, enfin sur la GM. Et un certain nombre de nos collègues qui sont en fait en gynécologie médicale, mais venant de la gynéco-obstétrique, se sont opposés à avoir un CNP de gynécologie médicale individualisé. Nous, on s'est beaucoup bagarré, enfin, le CDGM continue à se bagarrer, et nous, on pense que c'est vraiment important, mais pour l'instant, on n'a pas obtenu ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, il y a des rapprochements entre les différentes instances de la spécialité, la Fédération des collèges de gynéco-médical, la Société française de gynéco et notre collège d'enseignants, puisqu'on a créé un collège national d'enseignants responsable de l'enseignement depuis 2012. Et j'espère qu'à travers ces instances-là, on va enfin arriver, enfin les jeunes maintenant, plus moi, mais vont arriver à avoir un CNP individualisé.
Pourriez-vous nous préciser pour qui vous avez écrit ce livre? À qui est-il destiné principalement? Est-ce plutôt pour les étudiants ou pour les professionnels?
Alors d'abord pour les jeunes qui se sont engagés dans la spécialité formidable de gynécologie médicale pour qu'ils connaissent l'histoire, mais je crois que ça concerne toutes les femmes et tous les hommes aussi, puisque c'est l'histoire de la prise en charge des maladies des femmes. Et cette bagarre originale, elle a été quand même menée par quelques médecins, initiée par Dominique Malvy. Donc c'est pour tout le monde. Et c'est à la fois d'où on vient et où on est. Et ce que représentent ces spécialités et son originalité. Donc, je pense que ça concerne tout le monde.
Et du coup, si vous aviez un message à faire passer aux futurs médecins qui hésitent à se spécialiser.
Ben, c'est la plus belle des spécialités. C'est vraiment transversal. On touche à toutes les autres branches de la médecine. On s'occupe des femmes. Et voilà, c'est la plus belle des spécialités.
Merci beaucoup. Merci Madame Gompel, du coup, d'avoir partagé votre histoire avec nous aujourd'hui. J'espère que votre ouvrage permettra à nos auditeurs de mieux comprendre les enjeux actuels donc, qui sont liés à la gynécologie médicale. Et chers auditeurs, sachez que vous pouvez retrouver donc l'ouvrage Gynécologie médicale, une histoire de lite, sur notre site librairiejle.com ainsi que dans toutes les librairies. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Quoi de neuf d'auteur pour découvrir le parcours d'un nouvel auteur de notre maison d'édition. Merci pour votre écoute et à très vite.